Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Dieu bon. La Caillette frissonnait en regardant l'homme au pistolet s'accroupir sur ses bottes. Elle connaissait intimement qu'elle avait devant elle celui qui ouvrirait le livre de sa jeune vie à une page inconnue. Et pénétrée de cette certitude, elle l'écouta parler avec ravissement. Disait farouche ferraille Crowley. Je vous roule une cigarette, pop. Yep, opinait Edius Raquin. Ce matin, je me sens envie d'assez goûter le tabac. Peut-être demain je me mettrai à la chic. Et il crachait dans ses mains. Un homme qu'avait jamais smoke. Azeline aurait aimé gronder le vieux bougre pour son inconduite. Disait Edius avec obstination. Dès que nous autres aurez fini l'enterrement, je vous emmènerai pêcher un catfish jaune, long comme mon bras. Je connais un trou de vase où ça grouille. Et il crachait dans ses mains. Une fois, il poursuivait avec une excitation montante, « Dans cet endroit, j'ai soulevé un goujon caille de 35 livres. Et on mangera ça sur le feu. Et on arrosera ce niam-niam avec le moonshine que je vous ai pris. Vous serez heureux de votre journée. » Il relevait la tête, valsait son vieux chapeau et grattait sous la paille. Maintenant que le danger est écarté, il faut que vous soyez heureux. Juste le grand gars écoutait. Il avait des manières de chauvage, une habitude de silence. Il se contentait de cueillir une herbe. Il guettait tout autour. Sûr, il devait avoir un œil. Poursuivait Edius, vous serez à l'abri dans ce coin-là, personne ne vient jamais, et puis vous serez jamais le dos à la rivière. Je vais vous laisser ma pirogue. Ces deux-là s'étaient mis en chaudière d'amitié, c'était visible. Ils se parlaient comme des voisins s'estiment, échangeaient des regards fiables, prêts à tirer des jokes, même si la situation commandait l'affliction. La Gosseline reconnaissait plus son père. À moins qu'il soit foulier, timbré vif ou pire, mais plus probable pris de boisson, ce qui aurait expliqué la bonne gueule des deux compères et la force de leurs paroles. Parce qu'enfin, d'habitude, si là qu'enterre un mort à la sauvette, va pas crier à haute tête. Tandis que... C'est, Pope, pourquoi tu t'éreintes à rester dans ce coin qui rapporte que fièvre et misère ? Interrogeait l'étranger en essuyant son front pour en chasser la sueur. Mais Azeline avait beau se battre pour mieux voir ses traits à ciel ouvert, toujours quand il se trouvait pas de dos par rapport à la fille, c'était l'ombre sous son chapeau qui lui mangeait la figure. « Pourquoi t'es, après graffiner, toujours la vieille terre ?» insistait l'étranger en roulant son copeau de cigarette. Avant de passer la langue sur le papier, il pointait un regard invisible vers le vieux qui terminait l'ouvrage. Disait Edius, « Ah, ben c'est comme ça. Je suis après faire ma vie. » Tu viens là-bas au Texas, Pope. C'est là qu'il y a de la bonne terre. » Pour pas vexer son nouvel ami, le vieux Abitaco faisait la gueule douce. Tout de même, il haussait les épaules en signe de doutance. « Mais pourquoi tu me crois pas ?» se fâchait l'autre. Riait Edius en tassant la terre. « Parce que ce serait pire que l'homme qui jette 50 sous dans la rivière et que son chien plonge et revient avec un poisson-chat et 15 sous de monnaie. En d'autres mots, ce serait du rêve. Mais j'appartiens ici. » Pendant ce temps-là, un noyau de moustiques jouait à manivelle dans un rayon de soleil, et les sureaux qui entouraient Azeline de leurs bouquets de fleurs menues emplissaient d'un parfum sucré la laine plus fraîche de la source voisine. Elle aurait donné 100 piastres pour voir le visage de l'inconnu. Maintenant, c'était fini. Le trou était rebouché. Vieux Raquin dansa encore 3 minutes sur le sol pour la fermer. Il le faisait avec beaucoup de sérieux, un peu comme l'Indien Jody McBrown, quand il invoquait les esprits de la pluie pour conjurer la sécheresse. Edius entreprenait jamais à rien qui n'avait pas la conviction. Une fois qu'ils eurent tiré un ramassis de fardoches tout au-dessus de la tombe, plus personne n'aurait pu connaître qu'un homme avait disparu du monde. Azeline se demandait qui bien ce mort-là pouvait être. Elle n'était pas sûre d'avoir entendu le nom du shérif. Mais si par hasard c'était vieux Vic qui s'était fait bûchailler, l'affaire allait faire encore plus de bruit que la fois où on avait présenté au juge Cleveland de Frugé une main d'un humain que quelques coureurs des bois avaient cuite à la broche. La brunette hala un soupir et se remit à guetter comme un chat dans la cendre. Là-bas, dans la distance, les deux hommes étaient rentrés dans une cabane couverte de feuilles de latanier. Un petit camp qu'Azeline avait toujours connu. Une baraque qui s'était conservée depuis le temps des bûcheurs de Log. Souvent de fois, lorsqu'elle était petite fille, son père l'y avait emmenée. On y laissait des lignes à pêcher, on attrapait du poisson. C'était des temps où on faisait griller quelques patatas ventre jaune. On étouffait ça aux gros oignons et on s'amusait bien. Comme elle allait sortir de sa cache, Azeline vit ressortir les deux bervaucheurs. Ils étaient accompagnés par l'échappement du vieux Hip. Le taillot, qu'ils avaient dû tenir enfermé à cause du cadavre, laissait éclater sa joie de les retrouver. On aurait juré qu'ils s'étaient donné 2 mètres. Un coup de langue ici, un autre là, le chien partageait son amitié entre 2 parts égales. Ils se fâchèrent en même temps, en voyant une vire tape contre la bétaille pour lui dire de se taire. Le vieux Hip rentra la tête pour pas encourir leur double colère. Il se contenta de les accompagner d'un air louche. Sa queue trompetait dans les hauteurs. Les deux hommes pénétrèrent à nouveau dans la hutte et presque aussitôt réapparurent. Le chien n'était plus derrière eux. Preuve qu'ils avaient l'intention de finir la biture qu'ils avaient entreprise, ils tenaient par lance chacun un cruchon de moonshine. Ils revirèrent si bien près de l'endroit où se trouvait la jeune fille qu'elle se jeta le nez par terre. Les deux margotos étaient tout proches, il suffisait de pas respirer pour les entendre. Disait Edius en désignant le plantain de roseau devant eux, bah, « Un jour, je ferai un valet de cet endroit. Sure enough, Pop, un valet de moustiques. » Ça faisait couler le moonshine des projets pareils. Après avoir bu un filet de bouse, Raquin s'essuya la bouche, tapait la langue contre le palais. « Oh, mais il faisait « J'aime ma boisson, je l'ai fait moi-même. » Il laissait l'alcool palpiter dans sa cervelle et l'instant d'après recommençait à jongler avec l'idée de ce beau domaine à construire. Doucement, il s'entêtait. « Mon vieux bœuf, dos blanc, peut faire l'ouvrage. Mieux qu'un charrue, il peut défouiller toute la terre avec ses cornes. Et sur cette platitude effardochée, je poserai une grande habitation blanche, avec une galerie jusqu'au bout. »
Ah, just say way,
Pop. Et la maison sera si belle que tous les maringouins du Texas viendront la visiter avec jalousie et se curer les dents aussi avec les lattes de votre jardin. Les deux poriens s'arrêtaient pas de parler. Comme ils prenaient prétexte de toutes les sottises qu'ils possèdent, ça faisait de nouveau couler le moonshine, cette histoire de moustique. Coude à coude, ils rebevaient comme des sacs. S'inquiétait Edius.
C'est gros, ça, les maringouins, monsieur Crowley?
Ouais.
C'est des maringouins du Texas. Ils sont à peu près 6 pieds de haut, à peu près 102 livres. Ça, c'est des jeunes. Il y en a qui viennent plus gros, mais ils ont peur de venir ici par la rivière.
Qu'au faire?
L'autre foule au pistolet ricanait derrière sa main. Parce qu'ils sont craintifs de se faire nayer par les alligators. Et le moonshine coulait. Et le bon temps roulait. Et Azeline restait le nez dans l'herbe. Elle n'osait pas bouger. À peine si derrière un bouquet de myrtes, elle entrevoyait les deux soulards, ces deux toc-toc, assis sur un chicot. Ah, c'était bien le monde des hommes. Tellement indéracinable. Pourtant, Azeline se sentait respirer en harmonie avec leur inquiétude. Aujourd'hui, elle n'avait aucune raison de ne pas croire qu'elle était la personne la plus importante du monde. Dieu l'aimait. « La vie coule sous ma peau et je veux de toutes mes forces que cet homme me dévisage », pensait-elle. « Ô Seigneur, faites seulement qu'il se retourne, faites qu'il sente le souffle de ma prière, car il est venu celui que je veux partager. » Il est tel que je l'ai vu avant qu'il ne vienne. Ses yeux me transperceront et je lui abandonnerai mon ventre. Comme s'il avait perçu son appel, Farouche Ferraille venait de rejeter son chapeau vers l'arrière de sa nuque. Il s'était redressé en pivotant sur lui-même. Son mouvement avait été si rapide, un revolver au bout du poing, qu'Azeline avait instinctivement fermé les yeux. Elle entendit Edius marmonner dans la distance.
« C'est rien qu'arrive, monsieur Crowley. Ici, vient jamais personne. »
« Un jour, quelqu'un viendra, » dit Farouche Ferraille Crowley, toujours sur la défensive. « Quelqu'un qui tient mon destin dans l'ombre de sa main. » En entendant ces mots qui pouvaient aussi bien parler d'elle, Azeline osa ouvrir les paupières. D'un coup, elle découvrit l'or ruisselant d'une crinière fauve où s'inscrivaient les rides d'un front haut et tourmenté. Farouche Ferraille Crowley était tourné vers elle et la fixait sans la voir avec un rire d'une tristesse infinie. À l'abri des herbes, dès qu'elle eut déchiffré son regard, elle sut qu'elle était un caillou changé en source.
Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie, où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera-t-elle, qu'on viendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon refrain, ce n'est pas un refrain, c'est rafale. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est froid dur. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. de ce grand pays solitaire. Je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre. Ma maison, c'est votre maison. Entre ces quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon et les humains sont de ma race. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'envers d'un pays qui n'était ni pays, ni patrie. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie. C'est pour toi que je veux posséder mes hivers.
Retour au roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Au bord de l'onde claire où elle aimait venir, Bazel se retenait de crier. Déjà une heure s'était écoulée depuis qu'elle décrassait son linge et frottait sa planche avec une brique de savon de pays. Trois fois elle avait rincé, essoré ses corsages et pareillement tordu son jupon. Avec emportement, elle poursuivait ses gestes, se donnait à nouveau l'élan de celle qui travaille, recommençant une lessive qui n'avait point de raison d'être, puisqu'elle était achevée, les yeux écarquillés vers l'eau passante, les reins pliés à la cadence de son éreinte. Elle s'échinait davantage, faisait sourdre des flocons de mousse de la convulsion de l'étoffe, crispait les mains sur la tordure, tapait du battoir, baignait, blanchissait, délavait, purifiait ses hardes, comme pour conjurer la noirceur des mauvaises pulsions qui la harcelaient chaque jour davantage, l'acculaient au désespoir, à la hargne, contre elle-même, contre les autres aussi, Bazel inconnue, venue du silence, du dégoût des jours bruts, de cette permanence du combat contre la drigaille quotidienne, une vaine bataille perdue d'avance par son corps de femme. Jamais les arbres ne ramassent leurs feuilles, savait Bazel. Automne après automne, elle sentait s'alourdir le poids de ses hanches. Et tandis que d'âge en âge son esprit ressassait, elle se persuadait qu'à trop oublier qu'il en est, on s'efface, on s'amenuise. Attisée par ses jours de folleries rêches et d'ouragans du ciel, elle sentait battre en elle un sursaut que lui commandait la nature. Femme vertueuse et contentée de peu. Soudain, catin du fond des entrailles, elle s'en allait au bord du lavoir crier l'insatisfaction de ses chaleurs, la dévergonde de ses pensées, la déraison de ses projets. Oh, pas qu'Edius, son cher mari, eût démérité. Le pauvre bougre était resté le même. Bazel l'aimait d'amour tendre. Mais plus forte que la raison, une curiosité de visiter le feu et de se rassasier de barbaries nouvelles avait envahi son cœur. Toute sagesse avalée, Bazel était devenue sa propre tornade. Quand son âme affamée la poussait à la révolte, qu'elle ouvrait les yeux sur l'eau courante de la rivière, elle entendait jusqu'à la mer. Ce jour-là, lasse de mettre dans sa vie un ordre qui serait toujours le même, elle se déchaussa et, ses côtes remontées à la taille, entra dans le courant pour baigner ses jambes. De cette initiative inhabituelle, elle retira une idée de plénitude et de bien-être qui fit venir à ses lèvres un galimachat de mots embrouillés. La tête, elle croyait bien, lui tournait. Elle fredonnait, pas trop sûr de l'air. Une chanson à propos d'un mari qui prenait sa pirogue, partait pour des jours, soi-disant à la pêche, et s'en revenait d'en voir la lingue. Hey, où tu veux que je t'enterre, mon bon vieux mari? Où tu veux que je t'enterre, ce qu'on appelle l'amour? Et où tu veux que je t'enterre, mon bon vieux mari, meilleur buveur du pays? Toujours en marchant, elle était entrée si loin qu'un filet d'eau s'était mis entre ses cuisses. C'était de la douceur qui passait, filtrée par les ombrages des saules. Le soleil dessinait des assiettes de lumière sur la nappe mouvante de la rivière décorée de jacinthes. Ses bras nus tendus au-dessus du flot, Basel progressait à tâtons sur le fond vaseux. Elle n'envisageait pas de revenir sur ses pas avant d'avoir cueilli une fleur mauve. L'eau, sournoisement, avait abordé son ventre, éveillant jusqu'à la pointe de ses seins un vol d'ailes tumultueuses. Comme une équilibriste fascinée par son propre vertige, elle s'avança encore. Elle sentit frémir au fond d'elle les premières mesures d'une sensation d'autrefois, les échos affaiblis d'une imminence du désir que la caresse de la mouillure encourageait à s'épanouir. Sans prendre la peine de baisser les yeux, Basel fouilla dans sa poche et trouva ce qu'elle y avait dissimulé. Le petit bergot dérobé l'an passé au marchand ambulant qu'il avait bousculé sous un arbre. En se remémorant son haleine de bête puante et la pression brutale de ses mains courant sur son ventre, elle n'éteignit pas, loin s'en faut, l'irrépressible fièvre qui montait au creux de ses reins et lui donnait un peu mal au cœur. Quelque chose s'était éveillé en hurlant, dont elle était l'enjeu et la demanderesse. Elle avançait dans l'eau qui mordait sa poitrine. Elle serrait l'instrument de musique entre ses doigts aux extrémités fripées par la lavure. Elle progressait avec lenteur en direction d'un remous, là où l'ombre semblait changer l'eau en un abîme couvert et recouvert d'une toison étincelante. Basel s'approchait de ce qu'on ne reprend plus. Aussi, plutôt que de se borner à un contentement mesquin, emboucha-t-elle la trompinette de cuivre et de ses joues gonflées d'air bergonna une longue plainte. Elle perdit un moment l'équilibre parce que le sol s'ouvrait sous elle, mais se reprit pour quelques pas chancelants, prolongeant d'un souffle obstiné le vagissement nasillard de ce son mouillé qui appelait à l'aide, à la mort, à la vie, et soudain se brisa. Une fois crevé le vitrail de la cathédrale au Palais Sante, la voûte de la rivière reposait sur une architecture fuyante, arches molles et rosaces irisées qui s'affaissèrent sur le passage de Basel. Délivrée de toute pesanteur, ses cheveux déployés en un vol retardé, elle laissa son corps sombrer au-devant du tracé incertain d'une nef ondulante. Accompagnée par la cacophonie assourdie de l'effondrement des grandes orgues, elle ne fit rien qui pût retarder sa chute et laissa monter vers elle un monde caverneux. Plus de jugement, plus de recul. Elle ne discernait plus ce qu'elle avait fait. Les tempes comprimées par la pression de la masse liquide, elle se laissa aller jusqu'à ce point infime qui est la frontière entre le devenir et le néant. Au moment ultime, alors que sa cervelle se tapissait déjà de sombres glacis marbrés de rouge et qu'elle découvrait un champ d'étoiles à l'arrière de ses yeux, elle refusa les couleurs de l'inconscience et d'une double détente de ses jambes rendit son corps à la lumière. La lumière. Basel ressurgit, acclamait 100 000 poignards qui ensanglantaient ses yeux. Les pupilles tournées vers le ciel, la bouche ouverte pour happer l'air qui lui faisait encore défaut, elle acceptait de se laisser couronner d'irregardable blancheur.
La cruauté du soleil passait par le filtre déformant de chaque gouttelette, dévalant sa route depuis son front lisse et luisant. Tandis que s'apaisait le tumulte de son cœur, elle chercha à affronter, au travers de la prison de ses cheveux plaqués, l'éclat insoutenable, le tournoyant rayonnement de la réverbération. Elle se sentait si vivante. Elle avait osé si loin se compromettre. C'est fait, pensait-elle. Je reste de ce côté-ci. Je suis faite pour le suc des fruits. Je rachète la main du fou, j'avale la sagesse. Je veux qu'on me mène dans une ville forte. Qui ? Oh, qui me conduira jusqu'à l'apaisement de l'amour ? En écho risible de sa détermination, une voix pincée comme celle d'un canard lui répondit aussitôt.
Hé, vieille, viens ici, plutôt que de mourir, on va faire un petit passe-temps.
Afin de débusquer l'intrus, Basel masqua le soleil avec le dos de sa main. Assise sur l'écorce de la rivière, elle aperçut un bonhomme un peu grand qui balançait ses jambes dans le vide. Il avait sur le dos une jaquette à carreaux noirs et jaunes qui faisait une grande tente par-dessus sa maigreur. Et les jambes de son pantalon gris paraissaient vides à cause de la forme de ses mollets, guère plus épais que des toutes piques. Basel commença à s'approcher du rivage. Sa robe était si gonflée d'eau qu'elle avançait à grand-peine. De temps en temps, elle regardait du côté du malfaisant qui l'avait surprise en plein relâchement de ses sens.
Pendant ce temps-là, l'autre outrecuidant charrait ses moqueries. Il avait un timbre de voix familier. Il disait des choses comme « Hey, babe, tu vas jamais guess qui est là !»
Et plus Basel avançait, plus elle distinguait un vilain bétail à tête sec avec un grand galurin par-dessus. Un canotier haute forme comme jamais vu, étiqueté d'un ramassis de pendreloques piqués dans la paille. Des broches, des boucles d'oreilles, toutes sortes de penditifs, des croix de Dieu et aussi des épingles à chapeau, des poupées de sucre, quelques rubans, un miroir doré, deux petits fers à cheval pour porter chance et même un canif à cinq lames. Maintenant, le fantoche lui tendait la main pour plus qu'elle ressemble à une montgolfière et la hissait près de lui, nez à nez, sur la terre ferme. Si bien qu'elle ne pouvait pas faire autrement que de sentir cette odeur de muguet qui embaumait tout le coquin de la pointe de ses moustaches au sous-pied de ses guêtres à boutons. Et là, elle l'a reconnue. Forcément, sauf qu'il puyait autrement que la dernière fois. C'était ce méchant pédeleur d'Oclidotz qui était toujours après rouler les grands chemins. Comme qui dirait trimbalait derrière lui une espèce de malédiction errante.
« C'est moi »
annonça-t-il, en se trémoussant d'un tordion du cul.
« Oclidotz, votre prétendu, je voulais vous faire une petite passée. »«
Ça, je vous aurais pas salué, » dit Basel, « si j'avais pas eu le nez contre vous. » Le filandrin trémoussa sa tête, fit sonner toute la brocaille qui pendait à la visière de son haut de chef et, sachant prendre des airs d'acteur, entama une petite ritournelle. Juste, il fredonnait comme ça. « Mon chapeau aux escopeaux, ma cravate à zic et zac, ma culotte à courte paille. » Et il agitait en musère deux mouches nées en soie qu'il avait sorties de sa poche. Au refrain, il les envolait comme des oiseaux du ciel. Forcément, Basel s'éclata de rire. Qu'en faire autrement ? Tout de même embarrassée, elle aurait voulu reprendre sa main que toujours le marchand emprisonnait dans la sienne. Bien sûr, il ne la lâchait pas.
Voilà, nous avons terminé pour ce soir, donc la suite de ce roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.